podcast.com. Essaye ça.
Express du 8 mai. Salut Martin.
Salut.
Ça va?
Comme le lundi, hein, c'est toujours une espèce de sentiment de, même si je bois pas, de lendemain de brosse. Ça gaule beaucoup les dimanches. Encore beaucoup de plaisir hier. Fait que oui, ça va très très bien. J'ai un gros lundi. J'étais à 70% ce soir, 18h30. On a un gros lundi. Clip bête à 20h. Média du jeu à 21h. Donc.
Ouais, t'as l'air passablement éméché, mais pas dans le sens alcool, dans le sens de décoiffé, hein, crime, tu t'en viens cheveux longs, tu vas finir par pouvoir te faire une coiffure sac à vidange comme moi, là, tu sais.
Non, ça arrivera pas, ça. Le man bun n'est pas dans les projets, je peux te dire.
Semble que tu serais joli. Non, je te vois pas avec ça.
Non.
Non.
Hey, mais écoute, il s'en passe, par exemple, il se passe bien des affaires. Puis c'est pour une des rares fois, pareil, que même, je dirais, la veille, on sait un peu de quoi on voulait parler dans un express. Parce que moi, je suis tombé, je sais pas dans quel ordre tu veux faire ça, mais moi, je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment littéralement garoché à terre. Là.
Je sais que tu voulais revenir un peu sur une manif, là, mais on pourrait peut-être évacuer ça en partant.
Ah ben oui, la manif, évidemment. Ben écoute, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu capoter. Tu sais, on a parlé un peu hier aussi, puis dans des éditions passées. Tu sais, bon, c'est clair, là, je vais répéter une énième fois pour être sûr que tout le monde me comprend bien. Là, je considère que j'ai pas vraiment de voix au chapitre du tramway ou du troisième lien quant à la logistique de la chose, parce que j'habite pas à Québec.
Ou la nécessité, pis, ouais, pareil pour moi.
Ouais, tu sais. Sauf que, par contre, ben, en vertu du fait que ça va utiliser des deniers publics, ben, tu sais, je peux évidemment en parler. Et, ben, je pense que, tu sais, c'est tout à fait normal qu'il y ait des manifestations. Je pense que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord. On a probablement même des gens, des connaissances, des amis qui sont pas d'accord, puis qu'on n'a juste pas parlé avec eux autres qui habitent à Québec. T'sais, c'est fort possible. Moi, mon point, il est pas vraiment là. Mon point, c'est que ça me fait rire, puis c'est prévisible, là. J'apprends rien à personne, mais tu sais, c'est laisse. La sempiternelle tentative de récupération d'Éric Duhaime de cette affaire-là, en prétendant, en ayant même ces sbires qui font des lives sur Facebook et qui prétendent que c'est pas politique et qu'il y a aucune connotation quelconque là-dedans.
Pas qualifié par Duhaime, un candidat, genre?
Ben, ça a été organisé par, dans le cas, il me semble, du tramway, puis évidemment que là, le troisième lien, il est passé, mais dans le cas du tramway, c'est organisé par Stéphane Lachance, qui était un candidat dans l'appelterie, je pense, d'Éric Duhaime et du Parti conservateur.
Mais c'est pas politique.
Non, c'est pas politique, pas en tout. Et là, ben, évidemment, tu sais, Éric Duhaime, parce que, because Duhaime, ben, il s'en va là, puis là, il dit, ben c'est clair qu'il n'y a pas assez de l'appui, fond à vue d'œil. Les sondages le démontrent. T'sais. Rappelons qu'Éric Duhaime, c'est le gars qui disait que François Legault gérait par sondage et qu'il le fustigeait pour ça. Mais c'est pas ça. Moi, là, toute proportion gardée, là, Frank, là, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais est-ce qu'on s'entend que dans sa forme actuelle, qu'il s'agisse du projet du tramway ou qu'il s'agisse du troisième lien qui va utiliser strictement le transport en commun, dans sa forme actuelle, ça a quand même plus d'appui, ces deux projets-là, qu'Éric Duhaime en a eu au mois d'octobre 2022?
Effectivement, puis je sais pas si c'est dû au fait que... En fait, non, tu sais, écoute,
je ne sais pas la proportion de gens qui sont pour le troisième lien dans sa forme actuelle, transport en commun. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui sont en faveur du tramway. Mais je le sais qu'il y a plus de gens qui sont en faveur de ça, toute proportion gardée, qu'il y en a qui ont été en faveur d'élire un député de où? Éric Duhaime.
Ouais, c'est
mais
ça.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est Éric Duhaime qui devient le porte-étendard de cette cause-là? L'affaire d'Éric Kerr, ça, je comprends. Ça fait du sens. Je comprends. Mais ça, ça n'en fait pas. Oui, OK, ben, tu vas me dire...
Il y a une certaine logique, tu sais, je veux dire, dans le programme du Parti conservateur, on pourrait le qualifier de pro-pick-up ou pro-gaz.
Gaz.
C'est sûr que...
Mais sur le fond, tu sais, il y a quelque chose, il y a quoi que je trouve particulier par rapport à la prise de position d'Éric Duhaime, tu sais, comme si... T'as pas réussi à te faire élire, t'as pas réussi à faire élire un seul député. Oui, sur le fond, t'as obtenu 550 000 voix au scrutin. Personne contredit ça. Parce que si on contredisait ça, ça serait contredire le résultat de l'élection, puis même toi, tu l'as entériné. Fait que, y a pas de problème là. La problématique est pas là. La problématique, c'est le mode de scrutin. C'était la même patinoire pour tout le monde. Tu savais avant d'embarquer dans le game. Fait que tu peux pas te servir de ça. Fait que là, que c'est que en quoi je le sais la réponse, mais ah, tu sais, sur fondamentalement là, tu sais, Éric Duhaime, qu'est-ce qui fait de en quoi devrais-tu être le représentant de cette cause-là alors que en proportion elle a obtenu plus de votes en faveur ou plus les gens ils sont plus favorables qu'ils sont favorables de t'élire toi.
Ben, je sais pas à quel point il est porte-parole officiel, là, mais...
Ben, c'est le rôle qu'il se donne. Ouais, je comprends qu'il n'a pas été mandaté par personne.
C'est ça. Là. Moi, je pense qu'il il se donne ce rôle-là pour être conséquent, pour plaire à son très petit électorat qui est pro-gaz.
Hey, est-ce qu'il y a, regarde, c'est 13% qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a, en proportion, là, c'est quoi le pourcentage de gens de l'agglomération de Québec là, qui vont en subir les contre-coups, c'est quoi le pourcentage de gens qui sont en faveur? Est-ce que c'est plus que 13%?
Moi, je pense que c'est plus que 50%. Là. Je pense pas que ça se compare, effectivement. Mais écoute, ça prend un porte-parole, puis écoute, au centre de cette cause-là, moi, tu sais, comme je te dis, comme toi, j'ai un regard extérieur à ça. C'est du monde qui veulent privilégier une voie de la route pour du monde, genre tout seul dans le char avec du gaz, plutôt que prendre une voie puis la réserver au transport en commun. Alors que, tu sais, si j'aurais déjà jamais, là, je veux dire... Si on met pas de tramway, il va rester jamais. On peut pas élargir Charest, là, surtout pas en ville. Là. Il y a des bâtisses autour. Fait que, tu sais, moi, la solution du tramway me paraît viable. Tu sais, souvent, on va comparer Québec puis Montréal. Puis on va dire, à Montréal, on prend beaucoup de transport en commun. Puis, ouais, OK, mais c'est parce qu'à Montréal, c'est bien organisé. À Québec, c'est de la merde. Ben oui, mais c'est ça qu'ils veulent faire, l'organiser pour que ce soit aussi bien qu'à Montréal. Fait que, tu sais, tu peux pas. Tu sais, moi-même, j'ai dit ça souvent. Tu sais, le monde me reprochait de pas prendre plus de transport en commun. Je dis, ah oui, c'est vrai, je le prends pas beaucoup, mais c'est un petit peu déficient, hein, le transport en commun à Québec, là, à moins que tu passes d'un point en ville à un autre point en ville, si tu sors un peu du centre-ville, genre autour Charlebourg, Saint-Émile, tu sais, tous ces coins-là, Sainte-Foy, Saint-Augustin, Cap-Rouge, ben pour te rendre en ville en autobus, ben à la place de prendre 20 minutes en char en comptant le trafic, ça t'en prend une heure et quart. On peut pas dire que c'est un transport en commun très, très performant. Sauf que là, quand on veut l'améliorer, on peut plus utiliser cet argumentaire-là, là, tu sais.
Ben non, puis écoute, là, je comprends très bien. Moi, c'est sûr. Fait que là, tu sais, ça va être quoi la prochaine bébelle qui va concerner Québec ou pas, là? OK? Ça va être quoi la prochaine bébelle qui a de la grogne, qui a pas unanimité? C'est très rare que quelque chose ait l'unanimité de toute façon. Tu sais, fait que là, on va de patente en patente. Fait que là, t'as eu les drag queens. Faut protéger nos enfants des drag queens. Après ça, ben le tramway, troisième lien. Là, après ça, c'est quoi la prochaine cossin? Tu sais, ça va être quoi? Ben, moi, je te fais des prédictions. Là. Va voir, évidemment, parce que là, tu vas avoir tout le beau melting pot, Éric Kerr, puis tout ça. Société d'assurance automobile. Tu sais, l'identité numérique. On s'en va. Ça va être ça, là. C'est clair que ça va être ça. Les véhicules électriques. Le monde, là, ils veulent pas qu'il n'y ait plus de char au gaz. Fait qu'on va aller faire une manifestation, une belle petite pétition, puis nanana. Puis si vous voyez, si j'étais à l'Assemblée nationale, ce serait des débats qu'on pourrait avoir, ça, parce que c'est important. T'es pas à l'Assemblée nationale. C'est tout. Porte-toi une fondation, ou fais comme tout le monde, pars un comité d'enquête publique citoyen. Mais regarde, arrête de... Moi, c'est ça qui m'énerve. Ce projet-là a plus d'appui que toi, t'en as eu aux élections.
Ah, mais il va se trouver des causes, là. Le guide alimentaire va sortir, puis il y aura pas assez de hamburgers American dedans, puis ça va être trop... Il va y avoir peut-être... Il va y avoir des insectes. On va proposer de la farine d'insectes, puis c'est le plan mondial. Là, il va s'en trouver, inquiète-toi pas, il va s'en trouver des niaiseries. C'est pas trop inquiétant.
Ah
là,
non, ça, je suis pas inquiet, mais...
Tout ce qu'il y a à faire, c'est copier sur ce qui se passe aux États-Unis, là, comme le monde de la droite fait en général au Canada, là.
Je veux surtout sensibiliser les gens au fait que, je le sais que la plupart le savent déjà, mais peut-être mettre ça en mots, sensibiliser les gens que la très grande majorité des causes auxquelles Éric va adhérer pour aller chercher du grassroots movement sympathie, là, ben ça va tout être des causes qui vont avoir eu plus d'appui en pourcentage que lui aux élections.
Oui. Oui, ben c'est dur de... On l'a vu avec Maxime Bernier, c'est dur d'être populiste quand t'es pas populaire. À base.
Ah, pis ça, écoute, j'ai même pas parlé, c'est vrai, quelqu'un me le rappelle, là. J'ai même pas parlé de ça. Ça, c'est sans parler de sa présence au salon de l'auto pour aller pédeler puis vendre des livres. Mais regarde, il a le droit.
Ça, c'est correct, il a le droit, ben oui.
Ben ouais, mais je trouve ça
bien. Il
serait
pas allé au salon du tramway ou des transports verts ou de la bicyclette, là, tu sais, le salon du char à gaz.
Ou le salon de l'emploi de l'apocatière, tu sais, regarde, c'est le salon de l'auto.
Les tracteurs, puis l'agriculture, puis les bonnes vieilles valeurs.
Non, mais l'apocatière, ils bâtissent pas des trains aussi, là, dans ce coin-là?
Ouais, il y a une usine Bombardier, là, où ils font des... Je pense que c'est ça qu'ils font, justement, des wagons de train, de métro, des choses comme ça.
Exact. Ouais, ouais, voilà. Voilà.
Bon, je vais entamer un bloc America ou Texas. C'est Texas Shoot Them. C'est ridicule. Je sais que
everything is bigger in Texas.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le cas de dire. Tu sais, puis je sais que souvent, je me contente de réagir en disant USA! USA! À toutes les fois qu'il y a une tuerie, parce que, puis je vais leur dire encore une fois, c'est la société qu'ils ont choisi de se donner. Mais je peux quand même, tu sais, je dis ça, c'est pas parce que ça me fait rien, là. C'est pas parce que je trouve ça dégueulasse, pareil, mais personnellement, ils ne méritent pas ça, tu sais, les victimes puis tout ça, là. Mais collectivement, la société américaine, c'est ça qu'elle a choisi, c'est ça qu'elle veut. Puis à toutes les fois qu'il y a une tuerie comme ça, la solution, ça passe toujours par « ça prend plus de guns ». Faut donner des guns aux professeurs. Faut donner un gun aux concierges. Faut mettre des guns. Des guns plus de guns. C'est tout le temps ça. Les armes à feu, c'est un objet de fétichisme aux États-Unis. Comme leur maudit drapeau. C'est un signe de patriotisme. C'est rendu que... Ça fait partie de leur religion, là, la religion qui se sont créées. Là. Il y a Jésus, les guns, puis la patrie. Là. Ah, puis il y a le cash, évidemment, mais crime, les armes. Là. C'est arrivé, vous avez certainement vu ça, là, dans un centre commercial. Puis là, je prends celui-là, là, parce qu'il y en a eu un autre avant. Mais 9 personnes qui ont été tuées, dont le tireur. Il est rentré là, puis il s'est mis à tirer dans le tas. Puis il semble pas avoir de motif. On va apprendre plus tard que c'était quelqu'un de dérangé, de seul dans la vie, blablabla. Puis c'est ça qu'ils vont dire. Ouais, mais là, le problème, c'est pas les armes à feu, c'est que des gens dérangés, oui. Mais le problème, c'est que les gens dérangés peuvent s'acheter une arme à feu au marché aux puces sans avoir de background check ou un background check très ridicule. C'est ridicule. Au Texas, là, il y a plus d'armes à feu que d'habitants.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Oh, oui, ben oui, aux États-Unis, c'est clair, là.
Mais tu sais, Frank, je veux juste te sensibiliser à quelque chose, que je veux pas t'interrompre, mais tu sais, en plus, c'est que ça, cette situation-là, moi, ça, je savais pas ça. Au Texas, il existe des endroits qui s'appellent des gun-free zones. Fait qu'il y a des endroits où est-ce que... Non! Pas de gun ici! C'est arrivé dans... Tu sais, visiblement, ça marche fuck-all, parce que c'est arrivé dans une zone comme ça.
Oh oui,
c'est ce qui est arrivé au centre d'achat.
C'est pas le gouvernement qui va me dire si j'ai le droit de porter un gun, puis puis si jamais le gouvernement devient tyrannique, comment qu'on va se défendre, puis si jamais le roi Charles arrive à la tête de ses armées, puis il veut reprendre les États-Unis, ça prend des guns dans toutes les maisons. C'est cette mentalité-là, là, je veux dire, c'est de là que ça part. C'est cet amendement-là là, qui leur donne le droit d'avoir des armes à feu, c'était après une révolte contre l'Empire britannique, tu sais, pour qu'ils aient eu leur indépendance. C'était au cas que ça revenait, parce que dans une guerre civile comme ça, dans une la population, l'armée, c'est la population, là. Mais c'est parce que là, tu sais, on n'est plus à l'époque où il y a un risque que les États-Unis soient envahis par des forces terrestres, là, tu sais, si jamais il y a une attaque aux États-Unis, c'est à coup de Boeing, OK? Puis t'as beau avoir un AR-15 avec le meilleur scope, tu peux rien faire contre un Boeing qui fonce dans un building, OK? Puis t'arrêteras pas un missile non plus qui vient de la Corée du Nord, là, tu sais, s'ils sont capables d'en envoyer. Fait que le gun ne sert à rien dans cette optique-là. Puis même s'il servait à quelque chose, je veux dire, on n'est plus non plus au même gun, là. Tu sais, dans le temps que cette loi-là était passée, là, c'était genre des mousquets, là. T'sais, oh, les Anglais arrivent! Pow!
Ben oui. D'ailleurs, la fameuse pub est hallucinante.
Pow!
Là, tu as vu la pub du gars qui rentre dans un bureau avec un mousquet?
Non.
Tu sais, la loi, le deuxième amendement est passé à une époque où les guns, c'était des mousquets. Fait que tu vois un gars arriver dans un bureau, il y a un mousquet, il met de la poudre, il tape ça, tout le kit. Puis là, il tire sur quelqu'un, puis il manque. Après, il faut qu'il reload.
Ben oui, tout le monde a le temps de sacrer à voler de sa vie.
L'image, la pub est tellement puissante. Je me rappelle, il y a un mois, probablement plus que ça, je l'avais partagé sur Twitter. Ouais, c'est hallucinant. T'sais, regarde, c'est pas compliqué, là. Cette loi-là, ces droits-là vous ont été conférés à l'époque où le monde tirait au mousquet. Là.
C'est ça, ça prenait 5 minutes entre chaque coup de feu. Là, tu chargeais ça par la bouche du canon. On va mettre un petit peu de poudre, on va mettre un petit peu de plomb, puis après ça, OK, ouais, bon,
c'était pas précis comme aujourd'hui. C'était pas précis comme aujourd'hui. Le gars, quand il rentre dans le bureau, là, le premier coup qu'il donne, il manque, là. Il est à 10 pieds de la madame.
Oh oui,
il tire une plante en arrière, tu sais.
Oh oui, ça partait tout croche, le plomb partait tout croche, puis tu sais, c'est tu sais, on n'est plus au temps des arquebuses puis des tromblons là, tu sais, on est au AR-15 qui est une arme semi-automatique, tu peux tirer tu sais de façon ininterrompue pendant des heures si tu veux là. Tu sais, une fois que tu as fini ton chargeur, tu te crisses à terre, tu en prends un autre, puis tu as encore un paquet de balles. Tu sais, fait qu'à un moment donné là, c'est pas dans l'esprit de la loi, mais évidemment, ils interprètent la loi de façon à pouvoir conserver cet objet de fétichisme quasi-sexuel qui est une arme à feu, puis leur droit divin, là, parce qu'évidemment, la Constitution, pour certains conservateurs, ça a été écrit avec l'inspiration de Dieu, là. C'est comme la Bible, là. Il y en a qui vénèrent la Constitution à ce point-là, là. Mais une Constitution, ça change. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des amendements dedans, tu sais. Vous avez le droit d'évoluer. Je vous voulais pas, les Américains, là, mais vous avez le droit, même que je dirais que vous avez le devoir d'évoluer. Mais tu sais, c'est pas un État qui est très, très pacifique. Là. C'est la loi du Far West, elle a l'air encore à s'appliquer. Puis quand c'est pas à coup de tromblon, c'est à coup de diligence. Là. Il y a 7 personnes, surtout des immigrants, qui ont été tués par une attaque au véhicule Bélier au Texas. Là, on dit que les forces de l'ordre au début disent « Ben, écoute, on sait pas, on n'est pas sûr si c'est délibéré ou non, on va traiter ça comme un accident », sauf que les témoins disent « Ben, écoute, la personne arrivait en nous insultant, en donnant des slurs racistes, puis en pesant sur le gaz, en fonçant dans un tas de personnes qui attendaient l'autobus. Il y en a 7 qui sont mortes, puis beaucoup qui sont blessés. Ça a l'air que c'était pas beau, là, le SUV qui a passé là-dedans, puis qui a essayé de se sauver, mais les témoins qui ont réussi à maîtriser cette personne-là. Mais tu sais, le but, c'était de tuer le plus de migrants possible, là. C'était clairement un crime raciste, là. Je vois pas d'autres explications. Je sais qu'on s'est pas encore avancé à donner les motifs parce qu'on les a pas de façon officielle, mais tu sais, quelqu'un qui se dirige vers en fait, c'est un centre de pour les immigrants qui avait été un peu comme pas transformé, mais on leur avait demandé d'accueillir des migrants parce qu'il y en avait beaucoup. Fait que là, je sais pas si c'est quelqu'un qui dit hey, là, ça c'est pour les oubliés, ça, ce centre-là, c'est pas pour les races qui viennent de d'autres pays nous envahir. Puis ça m'étonnerait pas, genre de mentalité-là. Là. Ça existe ici, là. Ça existe ici au Québec. Imagines-tu au Texas comment que ça doit être commun et courant? Mais bon, cette personne-là a été rattrapée puis a été immobilisé, tout ça, mais on va en savoir plus long, là, sur l'identité, tout ça, mais écoute, le conducteur, il accélérait en allant vers eux, puis il lançait des slurs, là, tu sais, des insultes, là, assez claires.
Non, c'est clair.
C'est assez clair, c'était quoi, là. Puis là, pour revenir à la tuerie, ben, Joe Biden, ça, c'est cute. Au lendemain de la tuerie, Joe Biden exhorte le nouveau Congrès américain à interdire les fusils d'assaut, puis restreindre l'accès aux armes après la nouvelle fusillade, comme ils font après chaque fusillade. Puis à chaque fois, les Américains font ça. Tu vas pas m'enlever mon partenaire sexuel, mon AR-15, tu vas pas m'enlever ma liberté de pouvoir tuer des gens. Je suis un propriétaire d'armes responsable, puis c'est pour ma protection, puis avec ça pour la protection, là.
Frank, le credo, la leitmotiv de la NRA, t'as rien qu'à dire ça, tu résumes la
psychose. From my cold dead hands.
Ben voilà, c'est garde, je pense que c'est assez précis, c'est assez clair. Je pense pas qu'il y ait place à l'interprétation quant aux motivations de ce lobby-là puis de ces maillets-là. Fait que regarde, à partir du moment où que c'est pas une décision administrative, puis je vais te dire pire que ça, good luck en taboire au président américain qui va décider de s'attaquer à ça. Bonne chance! Parce que écoute, là, je veux pas être alarmiste puis je veux pas exagérer mes propos, mais... Moi, je pense que ça peut aller jusqu'à te ramasser avec des conflits armés, c'est mince si tu décides de t'attaquer à ça.
Ah oui, c'est certain. Les petites milices là, de garde nationale là, du dimanche, ben, je devrais pas dire ça parce que là-bas, aux États-Unis, la garde nationale, c'est quelque chose qui existe vraiment, là, puis c'est sérieux. Mais nous autres ici, la garde nationale, c'est juste une grosse joke, on s'entend.
La garde nationale du Québec!
Mais là-bas, la garde nationale, c'est une vraie entité militaire. C'est un peu l'équivalent de la réserve, j'ai bien compris. Là, c'est comme l'armée qui reste sur place aux États-Unis, qui n'est pas envoyée ailleurs. C'est pas mal ça. C'est pas mal la réserve. Puis quand ça va vraiment mal, on les appelle en renfort.
Exact. C'est exactement ça.
Oui, hein, je pense que oui. Puis en tout cas, mais des groupes paramilitaires, puis des conspis, puis des maniaques là, qui s'entraînent, puis avec des vestes tactiques. Là, puis d'ailleurs, le gars au Texas, il en avait une veste tactique, qui vont s'équiper au surplus de l'armée, là, puis qui jouent aux soldats ensemble, puis nos droits, puis la constitution, puis la liberté, puis eux autres sont dangereux. Là, c'est des maniaques. Là, c'est pour la plupart, là, puis tu regardes leur organisation, puis c'est comme clairement là, des maniaques. T'sais, ils s'en cachent même pas. Ils sont fiers de ça. Eux autres, ils n'hésiteront pas là, à commettre des attentats. Puis de faire... Moi, je pense que le président qui réussirait à établir un contrôle plus serré des armes à feu, il se ferait tirer. C'est plate, mais c'est ça.
Je le sais pas. J'essaie de me rappeler. J'essaie de réfléchir à quelles seraient les mesures qui feraient du sens pour un nouveau président démocrate. Qui prendrait la tête de cette nation-là puis qui déciderait de s'attaquer de façon concrète. Bon, évidemment, il y a le fait que chaque État aussi peut légiférer à certains égards sur différentes affaires, mais ça serait le bordel.
Mais le fédéral peut décider d'interdire ça puis il supplante l'autorité des États. Par contre, mettons la première étape, parce que moi, je dis que, admettons que quelqu'un voudrait vraiment, tu sais, que le Parti démocrate voulait vraiment s'attaquer à ça, pas juste faire des beaux petits points de presse puis prier puis mettre des drapeaux en berne, là. Ben ça prendrait au moins 10 ans là, parce que il faut qu'il commence par faire ce que le Parti républicain a réussi à faire, c'est-à-dire pacter la Cour suprême de juges de leur bord. Ok, la Cour suprême là, elle est pactée de juges républicains anti-avortement, pro-gun, puis c'était ça le génie du Parti républicain dans les dernières années, c'était de placer les pions aux bonnes places, ce qui fait que même si on a un président démocrate, c'est les républicains qui mènent le pays quand même, puis qui ont le contrôle sur les projets de loi. C'est pas pour rien que le projet pour le que le le jugement Roe versus Wade a été renversé là. C'était gagné d'avance parce que on a réussi à placer là des juges qui étaient anti-avortement, des conservateurs chrétiens, des dinosaures républicains, puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis des républicains à des postes clés, puis maintenant la Cour suprême, je pense qu'il y a un ou deux démocrates là-dedans. Là. Le reste, c'est tous des juges conservateurs chrétiens, pro-gun, pro-cash, anti-choix, contre l'avortement.
C'est pas dur, puis, Frank.
Contre les trans, tout ce que tu veux. Là. Fait qu'en partant, il faut qu'ils réussissent à placer du monde un peu.
Ils auront beau nous présenter ça comme ils voudront, puis utiliser le cinéma pour toujours établir c'est qui le méchant de service à l'époque où on vit. Là. Tu rappelles-toi de la guerre froide, après ça le Moyen-Orient, après ça la Corée, le Vietnam. Tu sais, bon, le pire ennemi des Américains, c'est il est en ça l'Américain.
Oh oui.
Puis il y a personne qui va me faire à croire le contraire. Puis ben oui, les relations internationales, tout ce que tu voudras là. Mais c'est hallucinant. Puis si tu as voyagé un peu là, il y a du monde dans le chat là, si vous avez voyagé un peu là. Moi j'étais allé au Texas, j'étais allé en Louisiane, j'étais allé en Alabama. J'étais allé tu sais, puis là tu vas te dire "Ouais, mais là plus que tu remontes vers le nord, tu sais, j'étais allé en Virginie aussi, puis j'étais allé puis inquiétez-vous pas là, des rednecks, il y en a dans chaque maudit dans chaque état, puis tu sais c'est assez hallucinant là. Tu sais, j'étais allé quand je suis allé en Louisiane, c'était écoute, on devait être au tournant 2000-ish à peu près avant Katrina. Puis tu sais, t'avouais la ségrégation là, c'est évident là, tu sais c'est puis là je veux pas mélanger les débats là, mais tu sais tout ça, tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit tantôt, tu sais, une des seules solutions potentielles, ça serait que quand les non-blancs vont avoir plus de guns que les blancs, ben j'espère que ça n'en viendra pas à ça. Hey, moi, ça me sidère encore de constater qu'en 2023, il y a des manifs nazis aux États-Unis, puis que tu regardes, il y a du monde alentour, puis on le hucèle, puis ils ramassent ça, puis ça se ramasse sur Twitter. Des élus comme Marjorie Taylor Greene qui publient sur Twitter des photos du gars assassiné. Tu sais, quasiment, pense à une image de lutte, là, la tête sur le chest, les bras dans les airs. Tu sais, c'est la culture du gun, l'apologie du gun. J'ai un plus gros gun que toi, de la violence. C'est capoté, c'est complètement capoté. C'est capoté de penser aussi qu'on vit à 3 heures de la frontière de ce pays-là. Je comprends que l'État de New York, c'est pas l'Alabama, là, on s'entend.
En fait, on revient à leur espèce de fétichisme du pouvoir. Puis le pouvoir, ça peut être acquis, tu sais, tu peux l'avoir par l'argent, le cash, ou par les armes, par la force. Puis je pense que c'est ça la maladie mentale des Américains, c'est qu'ils accordent trop d'importance au pouvoir. Ce qui est important, c'est le power, de dominer. Fait que ce soit avec les richesses ou avec des armes, l'important c'est de dominer, ou avec une religion même. Tu sais, il y a comme une relation malsaine avec le pouvoir aux États-Unis. C'est beaucoup trop admiré, beaucoup trop valorisé. C'est drôle, tantôt tu parlais des films Hollywood, tout ça, c'est vrai. Tu sais, tout de suite il m'est venu en tête Rambo 3. Dans Rambo 3, Rambo se bat contre les méchants russes aux côtés, genre, des talibans, tu sais, il est du bord des talibans. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 80, les Russes avaient envahi l'Afghanistan, là, puis c'était fait péter à gueule solide, entre autres parce que les talibans étaient armés par les États-Unis. Les États-Unis donnaient des armes aux... aux soldats afghans pour combattre les Russes. Puis c'est avec les mêmes armes qu'ils se font tirer dessus après ça. Tu sais, les Américains se sont fait tirer dessus avec leurs propres armes quand ils sont retournés combattre en Afghanistan. Là. La morale, c'est allez pas en Afghanistan, écœurez pas ce monde-là. C'est sûr, ils ont jamais été vaincus. Alexandre le Grand a essayé d'y aller, il s'est rendu genre jusqu'à Karachi, puis il s'est fait botter le cul lui avec. Tu sais, les plus grands conquérants sont fait péter la gueule là, fait que arrêtez d'aller là. Mais tu sais, c'est fou comment le cinéma est influencé par la politique internationale.
Ben oui, tu regardes, écoute, tout, sur particulièrement évidemment le cinéma américain, mais tu sais, toutes les époques, tu sais, je veux dire, c'est tellement facile, clair, évident.
T'identifies l'ennemi des Américains tout de suite.
Ben oui, tout à fait, tu sais, puis écoute, en même temps, je pense pas que ce soit anormal, là, c'est un peu synonyme de représentatif des époques, mais tu sais, à quel point, tu sais, c'est tous les films d'action, le méchant, c'est le méchant trendy. Il faut que ce soit lui le méchant. T'sais. C'est capoté, là. C'est complètement capoté.
Puis avant d'aller à la pause, je veux juste souligner que pendant que les Américains s'entretuent puis refusent tout projet de loi qui non pas qui empêcherait les Américains d'avoir des armes à feu, qui ferait juste restreindre, tu sais, comme pour les armes d'assaut, par exemple, tu sais, comme le AR-15, là, tu sais, qui est comme. C'est le mass shooter's choice. Tu peux tuer autant de monde que tu veux tant que tu te fais pas pogner. C'est comme au Festival Country, le gars était sur un toit, là. Il y avait le temps en masse de tuer autant de personnes qu'il voulait. Tu sais, c'est. On veut juste restreindre ça un petit peu, puis ça rue d'un brancard. C'est complètement fou. Puis on parle même pas de leur enlever le droit des armes à feu. On est même pas proche de ça. On parle juste. Ouais, mais mettons. Juste les gros guns, tu sais, ça me fait penser à Jim Jeffries, il fait un numéro là-dessus, tu sais. Il dit, ah, là, les Américains, là, faites juste admettre que vous êtes bandés ces armes à feu, là. Arrêtez de parler de défense puis tout ça, parce que quand... Puis là, Jeffries, il fait un cotype là, du gars qui dit, moi, je suis un propriétaire d'armes responsable, c'est pour ma défense, puis mes armes sont entreposées en sécurité. Ouais, mais OK, fait que t'as un gun genre en dessous de ton oreille. Non, je suis un propriétaire responsable. Mon arme est entreposée dans un coffre-fort barré. OK, d'abord, c'est pas pour ta défense. Parce que là, il joue un peu la patente. Il dit, mettons que t'as une invasion de domicile, du monde qui rentre chez vous. Pis, oh, t'es pas rentré dans la bonne maison, toi, t'es un petit peu. Je vais ouvrir mon coffre, puis tu vas voir que je suis préparé à me défendre. Ouais. C'est-tu 6-37-37? T'as peur que je mette les balles là-dedans? Mais non, c'est pas pour ta défense. C'est un fétichiste, là. C'est autre chose que ça. Et que pendant que les Américains crachent sur Biden juste pour proposer timidement de peut-être restreindre les gros guns, tu sais, qui peuvent tuer beaucoup de monde en peu de temps. Pas toutes les guns, là, juste les gros guns. Mais pendant ce temps-là, Ottawa éjecte 390 millions sur 5 ans dans des programmes provinciaux et territoriaux de prévention de lutte aux violences armées et aux violences liées aux armes à feu. Puis c'est une bonne chose. Québec, on reçoit 84,8 millions, 85 millions en arrondissant. L'Ontario, on reçoit 121 000. Bon, c'est pas un concours, là, mais
c'est proportionnel à la population, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Puis au problème des armes à feu, j'imagine. Puis tu sais, ça se passe surtout dans les grands centres. Puis le plus grand centre, c'est Toronto. Parce qu'on s'entend que, tu sais, Saint-Germain-de-Boulay ou ben Trinjonction.
Cette place-là. Festival du bœuf!
C'est le festival du bœuf! Galichin, puis.
Non, excuse-moi. Trécesson,
ouais, puis Nord Metal, puis à Trinjonction en Beauce. C'est assez tranquille, là, les tueries là, de masse. Là, c'est assez tranquille. D'ailleurs, ça prendrait juste une tuerie de masse, la ville disparaîtrait de la map. Il y a trois noms de famille dans ces villes-là. Puis c'est certain que ça s'adresse au grand centre. Puis d'ailleurs, juste chez nous, à partir du musée, ça arrive. Des fois, on entend les coups de feu. Là, on les entend. Là. Ça a été lancé, check l'acronyme, tout. ILCVAFG. Hein, c'est quand même.
Attends une minute. ILCVAFG?
Ouais, l'initiative.
ILCVAFG.
C'est ça.
ILCVAFG.
C'est l'initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Colin, vous pourriez raccourcir ça, là. Laissez faire initiative, laissez faire lutte, c'est pas moi leur relationniste, là, mais si je l'étais, votre acronyme, ça fait aucun sens. Là, on dirait un mot en alphabet cyrillique, là. on dirait un prénom russe. Puis c'est ça, ça a été lancé quand même en 2017 par le gouvernement fédéral. Puis bon, le financement a déjà été déployé au Québec. En fait, on a parti le programme Centaure. Puis crime, pas dire que ça marche pas, là. Ils ont saisi 400 armes dans les plus grandes villes au Québec, près de 500 à la frontière. Bon, cette imprimante 3D qui a été utilisée pour faire des armes, ça c'est niaiseux, je veux dire. Bon, le problème est réglé, les imprimantes 3D qui sont servies pour faire les guns, on les a. C'est parce que tu peux faire ça avec n'importe quelle imprimante 3D, mais par exemple, quasiment 1000 armes à feu saisies, moi je trouve que c'est un bon bilan, là, des armes à feu illégales, évidemment. Puis on apprend que les homicides aux armes à feu feux ont augmenté régulièrement. On est rendu à 227 en 2020. OK, c'est rien. Aux États-Unis, c'est 49 000. Puis évidemment, ils sont 350 millions, puis on est juste 35. Mais quand même, 277, nous autres, pour nous autres, au Canada, nous, on n'est pas bandés ces armes à feu, puis on trouve ça grave, les gens qui se font tuer, contrairement aux États-Unis. Mmh. Aux États-Unis, c'est juste... On fait une prière, puis après ça, c'est fini. C'est juste que la prière, ça calisse rien, là. Ça prend des projets de loi, puis ça prend des initiatives comme celle-là au Canada. Puis, crime, ça marche pas mal. Puis la violence, les homicides, en fait, liés aux gangs, ça a doublé depuis 2013. Fait que, écoute, moi, je suis pas contre un contrôle de fou des registres, puis plus personne d'armes à feu, puis, tu sais, je pense pas qu'au Canada, ce soit nécessaire, puis je pense que les idolâtres d'armes à feu, leur nombre est limité, contrairement aux États-Unis, là. Mais c'est une bonne initiative, je pense. On va faire une petite pause, puis après ça, ben, on va laisser Martin parler un petit peu.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Conte-nous ça.
Écoute, je suis tombé un peu en bas de ma chaise. C'est un gros topo qui a été présenté par... Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est paru, en fait, hier. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses et beaucoup de J'aime bien le mode de vie scandinave pour ce que j'en connais. Je suis pas un expert, je suis pas un scandinavologue, là. Mais de ce que j'en connais, Tommy aussi m'en a parlé beaucoup parce qu'il a vécu un an au Danemark puis tout ça. Fait que, tu sais, j'aime bien la façon, le beat de vie de ces gens-là. C'est puis d'ailleurs qui ont un climat qui ressemble au nôtre. Tu sais, il y a plein de familiarité. Hein? Ouais, tout à fait. À tel point que, écoute. J'ai été mis par cet article-là, là, ça s'intitule « Les Suédois sous haute transparence ». C'est un texte d'Alexis Gasson, je veux pas mal le dire, ou Alexis Gacon, là, je vois pas s'il y a une cédille ou pas. Mais, donc voilà. Et, écoute, tu sais, on parlait de contrôle d'armes à feu, on parle de liberté d'expression, liberté de presse, d'identité numérique, de tout ce que tu voudras. Ben écoute, j'apprends qu'il existe quelque chose en Suède qui permet, en gros, ça a plusieurs ramifications, là, mais je te dirais qu'en gros, point de départ, ce qui concerne toute chose concernant les élus et publics. Toi, là, comme citoyen, là, si tu voulais savoir c'est quoi les messages textes qu'un ministre a échangé avec un président de grande entreprise, te le dois. Okay. Si tu es journaliste et que tu voudrais avoir accès à ces informations-là, tu peux. Et je t'explique pourquoi j'ai l'absolue certitude que tout ça est totalement vrai. C'est que dans le cadre de ce topo-là, qui est un long article, ils font l'exercice. Ils utilisent comme exemple, écoute, si tu voulais savoir combien ça a coûté en taxi à un ministre ou une ministre au sein du gouvernement suédois, tu pourrais faire la requête, tu te rends au Parlement, tu fais la requête, et ils l'ont fait. Et ça a pris moins de 24 heures, puis ils ont su que ce ministre ou cette ministre-là a dépensé moins de 1 000 $ l'année passée.
Imagine Lise Thibault dans ce système-là.
Imagine les conspis dans ce système-là.
On colline dans la paranoïa, c'est
fait sûr. Je t'ai juste parlé des élus. Ça veut dire que si tu voulais, tu pourrais réquisitionner aussi les cookies d'une application gouvernementale. Il n'y a pas de limite, c'est la transparence en toutes circonstances. Par contre, il y a un pendant citoyen aussi à ça. C'est qu'il existe quelque chose, et là, mon Suédois est très rouillé, n'est-ce pas? Le Taxeringskalendern. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est les revenus de tous les habitants de chaque comté. Et ça, c'est disponible, là. C'est pas une affaire que tu commandes ou que tu payes plus cher qu'un autre ou whatever. Ah oui, tout à fait.
Dans quel intérêt? C'est bizarre.
Ben, on va y arriver, mon François.
Oui, je suis patient.
L'autre affaire aussi qui est assez particulièrement intéressante par rapport à ça, c'est que parallèlement à cette information-là, ben faire ton rapport d'impôt en Suède, là, ça prend quelques secondes. Parce qu'en vertu de ce que t'autorise le gouvernement à savoir, en vertu de tes revenus, ils savent déjà. Tu fais juste dire, eux autres, ils remplissent ton rapport d'impôt, ils remplissent, tu dis, c'est ça? Oui, enter. Fini tes impôts. C'est terminé.
Intéressant.
It's over.
Ouais. Il n'y a pas de calculer le montant à la ligne 22 et soustrayer le quotient du tiers de la ligne 27 et multiplier le tout par 327. C'est le fun.
Évidemment que ça fait en sorte que on peut assurer. Bon, un, regarde, le taux de participation aux élections, il n'est pas comparable avec ici. C'est 84 %. Pourquoi? Parce que les gens font confiance à leurs élus. S'ils font de quoi de croche, ils vont se faire buster. Fait que, écoute, t'as pas la nécessité de s'assurer d'absolument. Ouais, d'après moi, lui, là. Mais non, parce que les journalistes, tout ce qui pourrait être catégorisé comme du soudoiement, des conflits d'intérêts et tout ça. Être journaliste en Suède, le reporter s'est entretenu avec un journaliste qui est en Suède, qui traite de technologie. Il a déjà travaillé dans une salle de nouvelles à Montréal. Il dit, je suis très conscient que le journalisme comme ça au Canada, vous avez absolument pas accès à fuck all de ça, là. Très conscient de ça, là. Fait que ça fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence positive? Regarde, je vais te donner un exemple. Le patron de l'entreprise téléphonique suédoise Ericsson peut en témoigner. Un journal a demandé l'ensemble des textos qu'il avait envoyés à un ministre et ainsi pu démontrer que l'homme faisait du lobbying actif pour la 5G chinoise en Suède.
Là-bas, si tu veux donner un pot de vin à un politicien, il faut vraiment que tu donnes du vin.
Écoute. Et pour chaque élection, on demande le « personne ne meurt ». C'est quoi ça? C'est la version suédoise du numéro d'assurance sociale. De tous les candidats aux élections, on s'en sert ensuite, puis il faut qu'ils le donnent, là. Et on s'en sert ensuite pour connaître leurs antécédents judiciaires dans lesquels ils sont mêlés, leurs revenus, leurs dettes. S'ils n'ont pas payé leur facture d'électricité, par exemple, ou de plomberie, ça devient de l'information, ou les taxes, ça devient de l'information publique. Et là, bien évidemment, Frank, là, je te présente ça.
Tu t'assures d'avoir du monde honnête en politique, parce que quelqu'un qui a des squelettes dans son placard, il n'aura pas se risquer à tout dévoiler.
Oui, puis de un, de deux, bien évidemment, tu te doutes bien que c'est pas intégralement, c'est pas intégral l'accord de ça. Il y a des gens qui sont contre, évidemment.
C'est un petit peu invasif.
La vie privée, ouais, c'est ça. Mais par contre, ben ça contribue à faire en sorte que il existe un index qui s'appelle le Corruption Index de Transparency International, qui est une organisation qui se penche là-dessus. La Suède est au 5e rang. Puis le Canada est 14e. Puis tu sais, on le sait, là, au Canada, là, tu sais, ça déjà, il y a bien des publications qui ont fait leur chou gras du Canada et du Québec à l'effet que la corruption faisait loi, et que, particulièrement au Québec, là.
On a eu des commissions d'enquête là-dessus. Mais admettons, un élu, est-ce que quand même, c'est sûr qu'il y a une vie privée pareille, puis de pouvoir envoyer des messengers puis à sa blonde, puis dire des affaires qu'il peut pas dire en public, là? Non.
Non.
Oh, il peut pas avoir un.
Ben, écoute, Frank, là, écoute. Il n'y en a pas fait mention dans l'article, mais regarde, c'est clair à mon sens, pour l'avoir lu très attentivement, que si tu fais le choix de t'en aller en politique, tu prêtes flanc à ça. Fais pas ça d'abord.
Fait que tu peux pas jaser dans le dos de ton beau-frère avec ta sœur.
Si t'es ministre du Travail, non.
OK, c'est un peu rough, c'est un peu ordinaire, je trouve.
Cette impression de vivre dans une maison de verre a un effet bénéfique sur la... Ben, il y a deux chercheurs du Québec, en fait, je t'en parle. Il s'appelle Stéphane Paquin, qui est professeur à l'ENAP, et Jean-Patrick Brady, de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, se sont penchés sur la transparence des données en Suède. Les bénéfices sont appréciables, ont-ils conclu. Cette impression de vivre dans une maison de verre a un effet bénéfique sur la prévention de la corruption. La peur d'être dénoncé, de voir sa carrière politique prendre fin, favorise les comportements exemplaires, ont-ils conclu dans une étude publiée en 2018. Lorsqu'un élu se fait prendre en flagrant délit, le premier ministre ne vient pas à sa rescousse car la culture politique ne tolère pas les manquements éthiques. Fait que si tu veux runner puis devenir un politicien en Suède, check tes flûtes. Pas plus dur que ça. Par contre, ben là, évidemment, ça vient avec son lot de désavantages. Et là, je m'explique. Il y a une jeune Française qui travaille en Suède explique que elle est pas d'accord avec le fait d'être tenue de donner son numéro, l'équivalent d'un numéro d'assurance sociale. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Ça peut prendre un an lorsque tu arrives en Suède. Ça favorise pas vraiment ben l'immigration. On va se dire ça comme ça parce que entre-temps, si t'as pas ce numéro-là, tu peux rien faire. Donc, tu peux pas si tu veux un téléphone cellulaire, ça te prend ce numéro-là. Le numéro, évidemment, de personne nommeur, comme c'est écrit. Tu peux pas t'abonner au gym. Tu peux pas, tu sais,
c'est sûr social. Que
c'est difficile. C'est difficile. Il y a plusieurs associations en Suède qui décrit ou en tout cas qui fustige un peu contre cette pratique-là. Parce que il y a toujours du monde qui sont pas d'accord avec quelque chose, puis il y a quelque chose de relativement sain là-dedans. Par contre, là, d'autres avantages qu'a ce numéro-là. Dans le fond, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un numéro d'assurance sociale, mais qui est intégré à peu près à toute l'administration de la Suède, contrairement à ici, là. On a juste à penser au dossier patient. fait qu'eux autres, le fameux numéro, là, le personne humeur, là, c'est utilisé dans les hôpitaux. Ça permet de colliger les informations sur les maladies de la population. Ça permet aussi d'avoir ton dossier de patient qui te suit partout, et ainsi de suite. T'sais, eux autres, ils l'ont vraiment fait, l'intégration de ça. La presse, c'est la plus belle job au monde, être journaliste en Suède. Là. Tu fais un coup de téléphone, envoie-moi tes textos, puis le gars est obligé. T'sais, c'est réglé, là. Fait que, écoute.
Même que ça, il doit avoir un système informatique qui marche au gouvernement, en plus, pour même pas avoir besoin
ouais. d'aide. Il y a, je sais pas si on peut dire ça ici, mais en Suède, il y a un Suédois sur deux qui est abonné à un journal quotidien payant.
Et quoi,
parce qu'eux autres, ils se disent pas, les assis vendus de journalistes, ils disent pas ça là-bas, parce qu'ils savent que si tu demandes quelque chose à un ministre, il est obligé de te le dire. Puis s'il te le dit pas, tu as tous les accès pour découvrir qu'il te dit de la bullshit. En quoi ça affecte la démocratie? Ben, en Suède, c'est 84% des électeurs qui ont voté aux dernières élections législatives contre 62% au Canada. C'est gigantesque.
Oui, mais avec beaucoup plus de confiance. T'as plus l'impression que ton vote qu'il va compter, là.
Pas juste ça. C'est un des résultats les plus bas des dernières élections qu'il y a eu en Suède. 84, c'est pas un bon score.
Colin, d'habitude, des scores plus hauts que ça, c'est pas un bon signe non plus. C'est genre Saddam Hussein, élu à 102% de majorité.
Ah ouais, c'est ça. Fait que, bon, évidemment, tu sais, il n'existe pas de système parfait, c'est sûr. Puis là, ben, tu sais, en gros, vous voyez un peu le topo, là. Tu sais, si t'es un. Bon, la seule chose à laquelle tu peux te soustraire du fameux parce que, regarde, je te donne un autre exemple, tu sais, de savoir qu'est-ce que quelqu'un, le salaire de quelqu'un. Ben, tu sais, un des avantages, puis c'est clair que c'en est un, tu sais, si j'applique sur une job, ben, je vais savoir quel salaire demander, parce que je le sais combien que le gars qui l'a ou qui l'avait gagné. Tu sais, tu vois le genre?
Mm-hmm.
Fait que, par contre, il y a des choses que tu peux soustraire à ça. C'est tout ce qui est dans ta maison. Tu n'aurais pas le droit, là, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais tu sais, mettons, tu ne veux pas leur dire que toi, les étagères dans ta cuisine, c'est les Billy de Ikea, tu n'es pas obligé de leur dire. Mais tout ce qui reste du domaine administratif, citoyenneté, tout ça, c'est 100% transparence. Okay. Je pense pas que tu puisses te soustraire à ça et dire, non, moi, là, ma liberté, il n'y en a pas. Fait que, moi, c'est sûr que, tu sais, je suis très capable de lire cet article-là puis de voir les avantages que ça confère. Je trouve ça super intéressant qu'au niveau démocratique, ça contribue à faire en sorte que les gens ont confiance en leurs élus, parce que s'ils faisaient des flagos, ils sauraient. Je trouve ça cool que ça fasse en sorte que le niveau de confiance envers la presse soit hyper élevé, que le monde se renseigne parce qu'ils savent qu'ils ont les bonnes informations. C'est vraiment hyper sympathique. Mais je trouve ça trop, là. Wow! Là.
Ouais.
OK? Bon. Sauf que faut juste pas oublier que c'est un autre mode de vie, c'est une autre culture, c'est un autre pays, c'est une autre réalité. Puis pour eux autres, tu sais, là, y a, dans l'article, là, il fait mention d'associations qui sont pas d'accord avec ça. Il y a pas de marche dans la rue, puis God help us, puis de conneries de... Tu comprends-tu? Puis l'autre non, affaire,
c'est peut-être que... qu'il se déroule un des plus grands procès de l'histoire de l'humanité là-dedans. Faudrait voir si Stéphane Blais a encore des conversations avec le premier ministre suédois.
Ouais, mais puis l'autre affaire, c'est que c'est un système, à mon sens, c'est un système autosuffisant. Je m'explique. C'est que à cause de ce système-là, si les gens en voulaient pas, il est tellement efficace le système que si à un moment donné les gens n'en voulaient plus, ils le feraient tomber parce qu'ils auraient confiance que leurs élus le feraient, parce qu'ils auraient confiance aux journalistes qui leur donnent les informations en rapport avec ça. Fait que moi je vois ça de... En Suède, fait comme les Suédois. Tu sais, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais moi, je pourrais pas, à cause de mon éducation, de mes expériences passées, ma vie en société, ce de quoi j'ai été imbibé. Ben là, Chris, tu n'enverrais toujours ben pas mon T4, là, tu sais, on s'entend. Non, mais là-bas, ça. C'est une autre culture, voilà. Et là, ben, forcé d'admettre qu'avec des taux de participation aussi élevés aux élections, c'est sûr qu'ils ont eux-mêmes admis qu'il y avait eu beaucoup de ratés parce qu'eux autres, ils avaient décidé de ne pas mettre en place de mesures sanitaires. Ils se sont ravisés. Mais rappelons-nous qu'au début de la pandémie, tout le monde qui était contre les mesures sanitaires de Legault, ben, citait la Suède à tort parce qu'on s'est rendu compte plus tard que la Suède était, en tout cas, un des endroits, on se rappelle, on a eu des gens qui sont venus nous en parler aussi parce que la culture est différente là-bas et ainsi de suite. Mais en tout cas, moi je trouve ça quand même une donnée. Je trouve ça intéressant de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Puis je trouve ça. Écoute, comme je te dis, tu sais, que je sois d'accord ou pas, on s'en sac, je suis pas suédois, je vis pas là. Mais il reste quand même que même si je suis pas d'accord, je pense que c'est tellement bien monté que si ça avait à s'enlever. Ils vont voter pour que ça s'enlève, puis leur choix va être respecté.
Non, c'est ça. Ben, tu sais, il y a un monde entre ça, puis, je sais pas, genre, Donald Trump qui paye pas une crise de scène d'impôts, tu sais, ou ouais. des ou du monde, tu sais, des politiciens qui, dans leur publicité de campagne, tirent du gun sur des affaires, tu sais. Entre, tu sais, l'imbécilité primaire de la politique américaine, puis celle jusqu'à la transparence absolue, il y a certainement quelque chose entre les deux où on pourrait se placer, où ça serait intéressant. D'habitude, on a pas mal plus à apprendre qu'à dénoncer des sociétés scandinaves. Hein? Ils scorent bien. Là. Puis même dans l'indice du bonheur, ça existe, là. Les pays ou les sociétés où les gens sont les plus heureux, ils scorent pas mal dans les premiers. Et même s'ils sont les plus taxés, là, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, peut-être, mais ils payent plein de taxes. OK, ils payent plein de taxes, mais regarde, ils sont heureux pareil. C'est-tu pourquoi? Parce qu'ils en ont pour leur argent. C'est-tu pourquoi? Parce que leur politique est pas corrompue. C'est-tu pourquoi? Parce que c'est transparent. Fait que, tu sais, des fois, on aurait peut-être des leçons à tirer d'eux autres. Peut-être pas jusqu'à avoir, carrément, tu sais, d'être obligé d'afficher notre marque de bobette qu'on a acheté. Combien on les a payés, puis tu sais, mais il y a certainement quelque chose de plus modéré où on pourrait peut-être commencer à s'inspirer d'eux autres sans aller aussi loin qu'eux autres, puis idéalement en s'éloignant de l'influence américaine qu'on subit ben trop ici. Là.
La journée que le registre sort, ça s'appelle le jour de la jalousie en Suède. Alors, c'est pas mal intéressant. Hey, j'ai une bonne nouvelle!
Oui, donc.
Faut que je te parle de ça parce que, écoute, tu sais, je fais des tweets des fois dans la vie puis je vais me renseigner c'est quoi les mots-clics qui trendent le plus puis ainsi de suite. Puis là, ben, moi, écoute, c'est à cause de mes expériences passées. J'ai déjà été un giga fan de hockey vraiment intense puis tout ça, un fan du Canadien. Puis je déteste les Maple Leafs de Toronto. Et là, ben, écoute, tu sais, on se rappellera que même Stéphane Blais était allé jusqu'à féliciter les fans des Maple Leafs parce que la guigne semblait être terminée. Mais tu sais, ça regarde pas bien, Frank, parce que là, ils sont en train de se faire torcher. 3-0 dans les séries. Mais là, c'est
par qui?
Puis moi, ça me réjouit. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime pas les Maple Leafs. J'ai travaillé des années de temps avec des clients qui étaient à Toronto qui arrêtaient pas de me faire suer leurs Maple Leafs. Fait que c'est hyper personnel, là. C'est à la limite cheap, OK?
Mais c'est facile. Qui joue?
Ils jouent contre les Panthers de la Floride.
Okay.
Et là, ben, c'est que, en fait, je voyais qu'ils trendaient des affaires. Puis là, j'étais comme, ben, voyons donc. Il y a un joueur des Maple Leafs qui s'appelle Mitch Warner. qui a été un espoir, puis qui a été repêché. Il me semble qu'il a été repêché. Je pense pas que ce soit par voie d'échange, mais en tout cas, ça se peut que je me trompe. Mais il y a une espèce de trio là-bas, John Tavares, Mitch Warner, Austin Matthews, qui font la loi à Toronto, OK? Ils ont fait, ça, là, c'est ce qui est prétendu dans les officines, là, tu sais, c'est que c'est eux autres qui ont fait sacrer le coach dehors l'année passée. Ils voulaient avoir de la musique pendant les réchauffements. Ils sont venus à bout d'avoir ça. Ils ont demandé des salaires de fou, pas comparables avec du monde qui avait des meilleurs stats qu'eux autres. Les Maple Leafs leur ont donné. Puis là, ben, ils performent pas. Mais écoute, Frank, moi, je pensais qu'on tu sais, on était rough avec nos athlètes. Qui joue pour les Canadiens ici. Mais là, je suis allé m'amuser sur Twitter un matin.
Tiens! C'est pire!
Ouais! Qu'ils se font ramasser! Ça n'a aucun espèce de bon sens. Des mimes, des vidéos, des. Écoute, c'est une. Juste Marner, là, c'est le mot, là, c'est une des affaires qui trend le plus au Canada en ce moment. Là.
Marner.
Ouais, Mitch Marner. Et c'est juste du bitchage, là.
Oh,
il se fait ramasser, ça n'a aucun bon sens. John Tavares aussi, Austin Matthews aussi.
Autant que Brisebois dans le temps, mettons, là.
Oublie ça. Okay. Non, mais là, je te parle des médias sociaux.
Oui, c'est vrai, glace, c'était pas là dans pas. Ce temps-là. T'sais, on avait juste... Fallait attendre qu'il arrive sur la glace avant de crier dessus, là. Ça, maintenant, tu peux chier sur quelqu'un, un athlète 24 heures sur 24.
Ah non, puis écoute, là, c'est vraiment... Sauf que, ben, dans le cas de Marner, tu sais, c'est un gars qui a pas la langue dans sa bouche, c'est un gars qui la ramène un peu, tu sais. Fait que là, ben, il passe au cash, mais c'est un moyen temps. Ça a aucun espèce de bon sens. Puis, écoute, moi, je te jure, là, puis Patrice Brisebois, je me rappelle de l'époque où est-ce qu'il se faisait ramasser, puis les gens dans la section Molson, tu sais, c'est... Ça commençait avec 20 personnes, puis ça finissait avec chou partout dans le Centre Bell. C'est correct, mais je te jure, là, de mon souvenir, en tout cas, ça n'a... c'est ça. C'est que ce qu'on lui reproche, c'est qu'ils ne produisent pas en série. T'sais, c'est les trois stars qui ont fait la loi dans le locker, qui ont fait la loi dans le vestiaire, qui ont fait clairer des coachs, tout. Ils arrivent en playoff, puis regarde, hier, c'était 2-0 pour les Panthères dans série, puis ils ne sont pas présentés.
Ben c'est ça, les livres. Dans les, j'ai pas suivi le hockey dans les dernières années, mais dans le temps que je les suivais, ils étaient reconnus pour ça. Là. Ça chiait en série tout le temps. Là. Sous pression, ça ne marchait plus. Là.
Ah non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est quelque chose d'assez... écoute, je retire certaines des choses que j'ai déjà dites sur les fans du Canadien. Là. Écoute, puis moi, je te raconte. C'est parce que je travaillais pour Bell dans ce temps-là, puis un des clients que je desservais, en fait, le seul client que j'avais, c'était CGI. CGI, ben, ça débutera à Montréal, bien sûr, mais ça débutera à Toronto. Fait que moi, j'allais à Toronto une fois par semaine à peu près. Puis les gens avec qui je transigeais, ben ils arrêtaient pas de me faire chier, tu sais, parce que là, dans ce temps-là, Toronto, allait mieux que les Canadiens, puis tout. Fait que, tu sais, fondamentalement, j'ai rien nécessairement contre les Maple Leafs de Toronto. Doug Gilmour a toujours été un joueur que j'ai adoré, mais c'est ça. Fait que,
il a joué à Montréal aussi, Gilmour.
Ben oui, tout à fait, mais c'est en fin de carrière, là, mais Wendell Clark, il y en a plein, là. Ouais. Puis oui, il a joué à Québec, je le sais.
Félix,
mais,
Potvin, il y en a eu des bons.
Oui, il y en a eu des très grands joueurs à Toronto. Puis, mais c'est qu'eux autres, ils sont vraiment baveux. T'sais. Ils viennent à Montréal avec le chandail des Maple Leafs, ils te font chier, t'es chez vous. T'sais. Fait que moi, j'aime ça les étriver un peu quand l'occasion se présente. Et là, je trouve que c'en est une bonne. D'autant que, tu sais, tous les moves de l'organisation ont été faits pour amener au moment où ils sont, où ils étaient il y a trois games. Tu sais, de faire une deep run d'un playoff. Et ils sont pas capables. Qu'est-ce que je te dis?
Fait que c'est ça ta bonne nouvelle, c'est la défaite.
Ah oui, c'est ça. C'est moi qui ai choisi, c'est ça ma bonne nouvelle.
Mauvaise foi.
Ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'à Montréal, par exemple, l'acharnement sur Drouin, c'est assez dégueulasse aussi. Mais bon, regarde, il y aura un autre moment pour parler de ça.
Écoute, mais, donc, ils ont quand même payé des millions pour se faire haïr. Moi, je serais prêt à me faire haïr pour une couple de millions par an.
J'irais
pleurer sur des montagnes d'argent.
Ça fait partie, Frank, des raisons pour lesquelles je suis plus intéressé. C'est pas des jokes, là. T'sais, j'adore la performance sportive, j'adore les sacrifices que ces athlètes-là doivent faire. C'est tout parfait, mais je trouve que ça n'a plus de sens. Je trouve que ça n'a plus de bon sens. Je trouve qu'on est passé l'étape de ouais, mais c'est normal parce qu'ils rapportent des milliers de dollars, des millions de dollars à leur. Ouais, ouais, je comprends, c'est correct, c'est une business, mais ça m'intéresse plus. C'est le hockey que j'aime.
C'est pour ça maintenant que je vais porter plus attention au hockey aux Olympiques, au hockey féminin. Parce que un, je l'ai déjà dit, mais les Olympiques, c'est censé être le sport amateur. Puis là, tu mets des professionnels là-dedans, des millionnaires là-dedans, tu sais, qui... puis je comprends que les sportifs amateurs, par exemple, américains, tu sais, sont un peu traités comme des millionnaires, là, mais j'aime mieux souvent suivre le hockey des femmes parce que j'ai l'impression d'assister à du hockey plus pur, moins business, moins spectacle, tu sais, puis je m'attache plus aux joueuses... de ce hockey-là, que tu sais, je comprends que c'est pas le même calibre, c'est pas la même vitesse, c'est pas le même spectacle, mais je fais partie de je souscris au mouvement qui voudrait voir les joueurs de la Ligue nationale bannis des Jeux olympiques pour qu'on ait les meilleurs joueurs amateurs de la planète. Moi, je trouverais ça intéressant. Ça serait peut-être une petite tape une petite claque d'humilité dans face de ces vedettes-là, là.
Je pense pas que ça arrive, mon Frank, malheureusement. Parce que
les Olympiques. À chaque Olympique, ouais. Il l'évoque, mais encore là, c'est trop de revenus
c'est une business. Là.
C'est ça qui est fou. C'est que c'est du sport amateur, mais c'est une business pareil, les Olympiques. Souvent, si tu as été médaillé aux Olympiques, être médaillé aux Olympiques. Aux États-Unis, le lendemain, t'es millionnaire. Là. Juste en contre de pub, ces affaires-là, c'est comme gagner à l'auto. Au Canada, c'est moins ça.
Ça dépend de la discipline, Frank, parce que moi, je peux te parler d'athlètes qui ont gagné des médailles d'or aux Olympiques pour les États-Unis, puis ils n'ont pas été millionnaires le lendemain. Ça dépend de la discipline. En lutte amateur, Frank, là,
si t'es le troisième rameur de l'équipe d'aviron, ça se peut que tu...
C'est une idée préconçue, ça. Ça prend les disciplines importantes.
T'as bien raison. OK, c'est ce qui va clore.
Je peux te parler de vite fait, là, je te donne juste un exemple. Kurt Angle qui a gagné une médaille d'or aux Olympiques de... Je me souviens plus.
C'est Mr. Perfect.
85. Ça? Non, ça c'est Kurt Hennig.
Ah.
Mais, écoute, Kurt Angle, la seule façon qu'il a pu trouver de monnayer sa médaille d'or aux Olympiques, c'est de devenir lutteur à WWE. Il n'y a pas eu de meilleure offre que ça. Il y a les boîtes de Wheaties, là. Mais tu sais, tu peux pas faire ta retraite là-dessus. Les boîtes de Wheaties, c'est des céréales.
Moi, je connais les Wheaties.
Mais c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est comme le classique. Tu sais, les athlètes qui gagnent les médailles, ça ramasse une boîte de Wheaties. Tu sais, ils ont tous été, là. C'est John Elway. Dans le cas de Kurt Angle, c'en est un bon exemple. Là. Mais il faut juste pas penser que, gagner une médaille d'or aux Olympiques, t'es un Américain, t'invites là ton chèque d'un million, merci beaucoup. C'est pas comme ça.
Rémi nous dit, il n'y a pas de lutte amateur aux Olympiques. Je sais pas ce que tu veux dire, là, mais la lutte gréco-romaine, là, la lutte olympique.
Style libre, t'as gréco-romaine.
T'es pas la lutte pas de corde à linge, pas de coup de la corde à linge, puis de...
Non. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de lutte amateur aux Olympiques.
Non, c'est ça.
Il y a style libre, puis il y a gréco-romain.
Bon, voilà. OK, on va clore ça là-dessus. Je vous invite à aller si vous voulez avoir plus de contenu, le Patreon du Crachoir, de vous abonner à tout ce qui est TV, si ce n'est déjà fait. Puis de nous suivre comme ça. Puis tiens, je vais rajouter ça encore une fois. Si vous voulez savoir si je sais écrire un petit peu, je vous invite à aller lire mes textes sur le blog du Québec. J'ai mis un lien qui mène tout droit à mon profil d'auteur. Puis Colin, j'ai pas mal de fun à écrire. Puis mon texte sur Pierre Lemoyne d'Iberville, le corsaire canadien qui surpasse, selon moi, Jack Sparrow dans n'importe quel film, est rendu à 1000 partages. Je trouve ça bien fun. Puis je vous invite à partager n'importe quel de mes textes. Ça me montre qu'ils sont appréciés. Puis j'aime beaucoup ça.
Merci. T'as un peu, faut que je fasse de quoi?
Ici Tobin.
On se quitte là-dessus. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.